Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM comme chaque dimanche. C'est Voix au chapitre. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Le plaisir d'accueillir ce dimanche matin Malik Bezou. Bonjour.
Bonjour.
Malik Bezou nous parlera de son livre Je vais dire à tout le monde que tu es juif, avec en sous-titre Histoire comparée de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. Ce livre vient de paraître aux éditions Jourdan. Un titre complet, un livre complet aussi, riche de son information liée à ce titre, qui va nous donner un éclairage assez intéressant sur ce rapport de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme qui s'est opéré en Occident et en Orient, et aussi dans l'actualité aujourd'hui. Je l'ai dit, ce livre vient de paraître donc aux éditions Jourdan. Vous présentez rapidement Malik Bezou. Vous êtes physicien de formation et vous êtes un spécialiste de l'islam de France et de ses représentations sociales, ainsi que de l'islamisme. Vous êtes musulman réformiste et auteur de plusieurs essais marquants. Effectivement, j'ai lu dans votre bibliographie que vous êtes incontournable sur ces questions de l'islam de France. Alors, nous parler de je vais dire à tout le monde que tu es juif. Déjà, ce titre me semblerait pas provocateur, mais déjà, une affirmation d'une certaine manière qui donne une injonction au fait que voilà, on a tendance à parler de juifs de l'autre en l'interpellant sur sa judaïté.
Oui, tout à fait. Le titre, en fait, il a toute une histoire, mais effectivement, je vais dire à tout le monde que tu es juif. La judaïté ici est perçue comme une espèce de maladie, comme une tare, comme un défaut. Et toute l'histoire des minorités juives de par le monde disent tout de même que effectivement être juif, ça n'a pas été simple, tout simplement parce que dès l'Antiquité c'est le premier groupe monothéiste à émerger dans un univers idolâtre, polythéiste, etc. Donc déjà à l'Antiquité on les montrait du doigt, des rumeurs circulaient sur ces étranges personne qui adore un dieu unique, invisible, alors qu'à l'Antiquité, on adorait des statues, des choses bien, bien concrètes. Donc, dès le début, un rapport à cette minorité, marqué par des préjugés, voire des persécutions qui vont venir en réalité plus tard.
Déjà vont se marquer ces persécutions. Non, vous venez de dire avoir arrivé plus tard, mais dans comment elles vont être visibles, ces persécutions, dans cette époque?
En tout cas, à l'Antiquité, on a surtout quelques écrits négatifs sur les juifs, et puis on surtout à cette époque qu'apparaît un des mythes les plus redoutables, qui est le mythe du meurtre rituel, qui va alors pour le coup accompagner toute l'histoire des minorités juives, essentiellement en Occident, très peu en terre d'islam. Pour ainsi dire, ça sera anecdotique, on va le voir apparaître mais très 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 tardivement à l'époque de l'Orient, à l'époque moderne. Mais ce mythe du meurtre rituel, c'est quoi? C'est simple, c'est l'idée de croire que les juifs, à l'approche de leur fête religieuse,
la Pâque
juive, enlèvent, kidnappent des enfants, les égorgent, récupèrent leur sang, et avec ce sang, ils l'utilisent pour confectionner leur pain, en vue de la préparation de la fête religieuse. Donc c'est absurde, parce qu'en réalité les juifs consommaient du sang est interdit dans les textes, pour ceux qui connaissent un petit peu le judaïsme, mais cette croyance va apparaître dès l'Antiquité, tout simplement parce que c'est un groupe minoritaire, et donc on pointe du doigt l'altérité. C'est pas nouveau, c'est propre à l'humanité, hein. Dès que vous avez un groupe minoritaire, il est souvent associé, on lui associe toute une série de préjugés, d'idées négatives, de stéréotypes. Les juifs, à l'Antiquité, groupe minoritaire structuré, vont pas échapper à cette règle-là. Et un des premiers mythes négatifs qui apparaît à leur endroit, c'est effectivement l'idée qu'ils kidnappent des enfants grecs, pour le coup. Hein, on est à l'Antiquité.
Et on est en Occident.
Et on est en Occident. Et ensuite, avec la christianisation de l'Occident, de l'Europe, ce mythe va se christianiser. Et là, ça va être compliqué.
Et quand ça se christianise, pardonnez-moi, on est dans un temps, cette antiquité, où la visibilité de cette minorité juive, elle va être ancrée de plus en plus dans sa négation.
Oui, en tout cas, c'est surtout effectivement à l'Antiquité, on a quelques écrits qui effectivement mettent en évidence, racontent ce type de préjugés, notamment le mythe du mort rituel. Mais c'est vraiment à l'époque où émerge le christianisme que tout se joue. Et là, c'est comment dirais-je, j'allais dire le péché originel, c'est ce qui va marquer au fer rouge le rapport entre le christianisme et le judaïsme, un rapport extrêmement négatif, il faut le dire, parce que le peuple juif, les juifs vont être considérés dans l'imaginaire chrétien, et ça c'est absolument fondamental, lorsqu'on comprend ça, on a tout compris, j'allais dire. Ils vont être considérés comme le peuple tueur de Dieu. Le peuple décide. Cette accusation va être terrible. Oui. Terrible et extrêmement.
Ils vont la porter longtemps, le peuple. Ils vont la porter très très longtemps.
Jusqu'à l'aube, jusqu'au début de l'époque moderne. Et encore, ce préjugé, en tout cas cette idée que le peuple juif est le peuple décide, le peuple tueur de Dieu, parce qu'ils ont contribué directement ou indirectement à mettre Jésus sur la croix, ça, les chrétiens ne leur pardonneront jamais. Et du coup, cette idée extrêmement ancrée va avoir des conséquences dramatiques pour les minorités juives en Occident, d'où les pogroms, d'où les massacres,
Jusqu'à cette modernité, jusque les pogroms, c'était il n'y a pas longtemps.
Alors, effectivement, moi j'ai utilisé le terme pogrom, mais il faut mettre des guillemets parce qu'à l'époque du Moyen-Âge, on ne disait pas pogrom,
oui.
C'est un autre terme. D'où l'idée aussi on parle de judéicide, mais il n'empêche que la réalité des massacres, des exterminations des minorités juives en Europe, commence dès les croisades. Parce qu'on va considérer qu'il est complètement dérisoire d'aller attaquer les Sarrasins en Terre Sainte, alors même que le pire ennemi du christianisme, du Christ et de la Vierge Marie, selon les dires des chrétiens, sont les Juifs. Et ils vivent parmi nous. De nombreux textes illustrent mon propos où je montre combien des moines et des religieux de premier plan expliquent à leurs ouailles pourquoi les... attaquer le Sarrasin en Terre Sainte, alors même que nous avons le pire ennemi du Christ ici. Occupons-nous d'abord de lui. Le fameux croisé Godefroy de Bouillon, lors de la première croisade de mémoire, expliquera qu'il n'ira pas à Jérusalem tant qu'il n'aura pas nettoyé la terre européenne, de cette race immonde qu'est le peuple juif. Donc on est dans cet esprit-là, on est là typiquement dans un anti-judaïsme chrétien. Le moteur de cette haine, c'est un anti-judaïsme d'essence religieuse.
Alors justement, cet anti-judaïsme d'essence religieuse, il s'inscrit dans quel texte et comment il est propagé? Alors, comment il est instrumentalisé par ceux qui l'écrivent d'abord, qui sont les religieux, hein, les grands religieux, ou les grandes figures sociales peut-être aussi, hein, des sociétés, et comment elle est transmise au peuple, justement, pour que ça engendre cette haine.
Tout simplement. Alors, il faut faire la distinction entre la position officielle de l'Église catholique du Vatican, qui est, il faut pas persécuter physiquement les Juifs, mais il convient de leur faire sentir le poids de la trahison. Donc, il y a pour le moins
dire les choses, mais il y a quand même de la part de cette haute autorité religieuse
et un propos ambivalent qui va être reçu par le commun des mortels. Imaginez le rustre, les simples paysans de l'époque moyenâgeuse. Bon, pour eux, ils ont vite fait de basculer dans le côté obscur, hein, du propos. Et puis ce propos-là va être relayé par les petits curés de terrain. Et eux, effectivement, ils auront plutôt un rapport extrêmement négatif, pour le moins, au judaïsme et aux juifs. Et je pense, par exemple, à Pierre le Vénérable, moine du 11e siècle, qui, pour le coup, va être le premier à traduire le Coran en latin. Alors aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est un islamo-gauchiste, mais parce qu'il va avoir des écrits plutôt doux vis-à-vis des musulmans. Par contre, vis-à-vis des juifs, il va plutôt inviter à persécuter les juifs avant de partir en croisade. Et d'ailleurs, il est contre l'idée de croisade. Hein. Lui, il considère que les croisades, c'est un non-sens et qu'il faut plutôt apporter l'évangile aux Sarrasins, leur montrer la vérité. Et naturellement, ils viendront vers la vérité. Ils abandonneront leur fausse croyance qu'est l'islam, qu'on n'appelle pas encore l'islam en ces temps-là. Mais pour Pierre le Vénérable, qui est un personnage quand même central, les Juifs constitue un peuple détestable. Ça ne veut pas dire qu'il est pour les persécutions physiques.
Hein. Il y a de la haine quand même.
Il y a une détestation, une colère vis-à-vis des Juifs parce que ils blasphèment Marie. Ils détestent Marie. On considère que dans leur culte, et ils n'ont de cesse de dire des insanités, des horreurs sur Marie. Ils traitent Jésus de tous les noms, etc. Donc on est convaincu que les Juifs ont une détestation des chrétiens et qu'ils veulent la perte des chrétiens. Et ce sentiment va trouver une espèce de confirmation, notamment dans la collaboration extrêmement forte dans l'Espagne musulmane, où les Juifs et les musulmans vont travailler ensemble. À tel point d'ailleurs que dans l'Espagne musulmane, des émirs, des califes vont s'adjoindre le concours et ils vont nommer des premiers ministres entre guillemets juifs, des médecins juifs seront auprès des califes, etc. Donc bon, là ça sera la deuxième partie de notre propos, mais c'est vrai qu'en terre chrétienne tout confirme le fait que les Juifs veulent la perte des chrétiens. Ils ont tué Jésus, le pire des crimes, peuple déicide, mais ils continuent le meurtre rituel. Qu'est-ce que le meurtre rituel si ce n'est qu'une prolongation du peuple de verser le sang des chrétiens? Et ça s'ancre dans l'imaginaire chrétien fortement au Moyen-Âge.
On y reviendra dans un instant. Je rappelle que je reçois Malik Bezou. Nous parlons de « Je vais dire à tout le monde que tu es juif », histoire comparée de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. On le retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beur FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beur FM.
Vous êtes toujours sur Beur FM et c'est Voix au chapitre. Je reçois ce dimanche Malik Bezou et nous parlons de « Je vais dire à tout le monde que tu es juif », histoire comparée de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. C'est le titre de son dernier ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Jourdan. Nous évoquions dans une première partie avec notre invité justement ce rapport entre l'antijudaïsme et l'antisémitisme en Occident, précisément, dans les temps anciens. On est allé en Antiquité voir le rapport qu'entretenaient les sociétés face au judaïsme. Et effectivement, vous terminiez votre propos, Malik Bezou, sur ce rapport au judaïsme, enfin oui, aux juifs, au peuple juif, dans un autre temps peut-être. On va essayer d'avancer dans le temps si vous le voulez bien, et vous parliez de l'Espagne par exemple, où il y avait une communauté, hein, si on peut le dire ainsi, juive et musulmane dans cette Espagne. Comment ça se passait? On vivait ensemble?
Oui, tout à fait. Alors, donc, dans la première partie, nous avons dit effectivement que le rapport des Juifs en Occident a été clairement dramatique, du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, et puis ça va se poursuivre malheureusement. En terre d'islam, les choses seront, on peut le dire, radicalement différentes. Alors, l'Espagne andalouse est un exemple, mais il faut pas faire une fixation sur l'Espagne andalouse. C'est tout le monde musulman qui effectivement va abriter les communautés juives qui vivront comme d'autres communautés. Et une des raisons, et la raison fondamentale pour laquelle effectivement on n'a pas cette hostilité musulmane vis-à-vis des juifs, elle est évidente, elle se déduit de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que en islam, les juifs ne sont pas le peuple déicide. Les juifs n'ont pas contribué à mettre Jésus sur la croix. Celui qui est mort sur la croix, dans les dogmes musulmans, ce n'est pas Jésus. Donc, au pire, dans le pire des cas, certains théologiens musulmans de l'époque classique, 10e, 11e, 12e siècle, vont considérer les juifs comme le peuple prophéticide, le peuple tueur de prophètes. Mais qu'est-ce que ce crime par rapport au peuple déicide, tueur de Dieu, le pire des crimes? Donc, et encore, cette idée de peuple prophéticide sera quand même très anecdotique en terre d'islam. Donc, la raison structurelle pour laquelle, en terre d'islam, les juifs vivent relativement paisiblement, En tout cas, sans.
On est dans quelle période à ce moment-là?
On est typiquement depuis l'avènement de l'islam. Donc, lorsque l'islam domine, hein, donc de l'Espagne jusqu'au fin fond de l'Inde, on est typiquement au 9e, 10e, 11e, 12e siècle, 13e siècle, jusqu'à l'arrivée des Ottomans et jusqu'au 17e siècle. Hein. C'est depuis les Omeyyades. Allez, depuis les Abbassides jusqu'aux Ottomans, ce qui fait quand même du 9e siècle jusqu'au 17e siècle, à l'arrivée de l'époque moderne, les choses deviennent plus compliquées, hein, parce qu'il y a le
dynastie. On verra justement ça. Pourquoi. Mais à l'époque, comment ça s'opère à ce moment-là.
Sous les Abbassides et sous les Ottomans, c'est plusieurs siècles, c'est toute l'histoire de l'islam classique, hein, les juifs vivent relativement paisiblement. Cette idée de peuple déicide n'existe pas. Donc, pas d'anti-judaïsme islamique exalté, virulent. Et à partir de là, rien ne va s'opérer en termes de persécution dans l'imaginaire musulman.
Mais il y a des ressemblances en plus de ça.
Alors, bien évidemment, on
parle de ressemblances aussi entre les juifs et les musulmans dans ce temps-là, en tout cas.
C'est ce que les théologiens, et non des moindres, vont dire en parlant des juifs, c'est que les chrétiens se sont enfoncés dans l'erreur en associant à Dieu un fils, alors que les juifs se sont arrêtés aux portes de la vérité. Ils sont dans la vérité, ils sont un peuple monothéiste qui adore le Dieu unique, l'éternel, mais ils ne veulent pas reconnaître Mahomet ou Mohammed comme étant le dernier messager. C'est une erreur, mais ils ont préservé l'essentiel, c'est-à-dire l'idée fondamentale en islam qui est l'unicité de Dieu. Le rapport avec les chrétiens en terre d'islam sera plus compliqué parce qu'on est quand même dans un contexte des croisades, hein, tout le 11e siècle jusqu'au 13e siècle, deux siècles de croisades, donc c'est un peu plus compliqué.
Alors justement, les chrétiens dans cette période des croisades, comment ils s'inscrivent dans cette tripartie, si je puis dire? Il y a les juifs, il y a les chrétiens, il y a les musulmans. Comment ça se vit et comment ça se bouscule dans l'histoire, les trois religions?
C'est une question fondamentale. Alors, c'est vrai que voilà. Donc, pour comprendre pourquoi il n'y a pas eu de persécution et de pogrom, parce qu'effectivement, je l'ai dit, en terre d'islam, les juifs ne sont pas le peuple déicide. Donc, déjà, ça enlève un énorme contentieux, si je puis dire. Ça éteint la poche d'hostilité. Et puis, il y a un autre élément, et je réponds à votre question, c'est que l'islam, avec un grand I, en tant que civilisation, va être tout à fait en mesure d'absorber la diversité et la pluralité ethnico-religieuse. Il faut imaginer ce que c'est que le califat abbasside ou ottoman, qui gère des minorités juives, chrétiennes, zoroastriennes, sabéennes, en veux-tu, en voilà, si je puis dire. Donc, les juifs seront une minorité parmi tant d'autres, comme les chrétiens. Donc, on va faire un texte. En terre d'islam, les théologiens vont écrire des lois, et notamment celle du dhimmi, alors qui est souvent un mot utilisé de façon très partisane par les uns ou par les autres. Dhimmi, ça veut dire, oui, discriminer. Ce sont des minorités du livre, donc non musulmanes, croyantes, protégées par la loi islamique, mais en même temps, effectivement, ne jouissant pas des mêmes droits que la masse musulmane, mais elles sont protégées dans la loi islamique. Les minorités juives, chrétiennes, etc., n'ont pas le droit d'être persécutées, chassées, violentées. Sous les Ottomans, les vizirs et sultans veilleront à cela, à tel point que des sultans, et non des moindres, vont écrire ce qu'on appelle des décrets interdisant toute hostilité ou persécution à l'endroit des juifs, et notamment, pour rebondir sur un point fondamental, lorsque des sultans ottomans vont entendre parler de persécution au sein de leur empire de juifs à cause de cette croyance du meurtre rituel, les sultans musulmans ottomans vont écrire des textes et les imposer à tous leurs vizirs et émirs, interdisant que les juifs soient persécutés sous prétexte de cette rumeur complètement grotesque qu'est le meurtre rituel. Alors même qu'en Occident, à cette époque, on y croit et on est convaincu et on persécute les juifs à cause de ça. Et donc, autre élément fondamental vis-à-vis justement de la non-détestation des juifs en terre d'islam, c'est les fameuses rumeurs. Alors, le meurtre rituel en est une, mais il n'y a pas que ça. À la Renaissance, lors de l'épidémie, terrible épidémie de peste noire, des écrits conspirationnistes, si je puis dire, affirment que ce sont les Juifs qui empoisonnent les puits. C'est terrible, et cette croyance va se diffuser partout, dans toutes les strates de la société, et ça va donner lieu à de terribles persécutions et massacres. En terre d'islam, où la peste, notamment en Égypte, va faire de terribles ravages.
On n'a jamais parlé de...
Personne. D'ailleurs, des penseurs ou théologiens musulmans vont considérer cela comme grotesque, parce que si les Juifs empoisonnent les puits, mais ils s'empoisonnent eux-mêmes, parce que les puits, les animaux vont boire, enfin tout, c'est grotesque. Donc, le rapport, on le voit bien, en terre d'islam, vis-à-vis du juif et de la judaïté, est sans commune comparaison avec ce qui se passe en Occident, où le juif est... persécuté parce que détesté, parce qu'il y a voilà un fond de croyances liées au rapport historique entre le christianisme et le judaïsme, un rapport Jésus est mort sur la croix, la passion du Christ, cette passion va se retourner en haine du juif. Donc mais ça n'existe pas en termes d'histoire. Les juifs seront perçus comme une minorité parmi tant d'autres. On n'en fera aucun cas. On ne s'en souciera pas au plus grand, je veux dire, bonheur des juifs. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de massacre.
Oui,
il y en aura quelques-uns.
On y reviendra. Oui. Parce que justement, cette histoire comparée dans l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident, le sous-titre de votre livre, révèle bien justement que cette comparaison vraiment très fouillée hein, que vous faites dans le livre, y compris avec en italique les fameux textes hein, où il y a la haine du juif qui est soulignée là dans votre livre, nous montre bien à quel point dans cette longue époque, hein, vous avez rappelé le temps, la haine du juif était présente, il y avait des persécution, mais il n'y avait pas encore... Il y a eu des massacres aussi, vous le soulignez. Mais en même temps, quand on... Voilà, on fait le tour de... Pas de la Terre, mais on avance vers l'Orient, dans ce rapport entre les Juifs et les musulmans, va se développer quelque chose de cet ordre-là, de violence quand même, de la haine du Juif, qu'on retrouve encore aujourd'hui, mais bon, il y a des périodes aussi. Je crois que pour en finir... Il me semble que dans toute cette histoire avec un grand H des religions, on a vu ces va-et-vient entre la haine du juif, y compris en Occident, vous l'avez développé, mais on le retrouve aussi en Orient.
Oui, sauf qu'en Orient, en Occident, elle est structurelle.
Voilà, elle n'est pas du même ordre.
Alors qu'en Orient, elle est accidentelle. Si on parle de massacre et de persécution physique, hein, en Occident, elle est vraiment structurelle et systémique, hein, liée à un rapport du christianisme au judaïsme, alors qu'en Orient, elle est accidentelle. Mais effectivement, ce type d'accident va se produire quelquefois, donnant lieu à de terribles massacres de communautés juives, mais ils seront relativement exceptionnels dans l'histoire du monde musulman. Ils seront malheureusement chroniques, réguliers en terre d'Occident, avec ce point paroxystique au XXe siècle, qui est la Shoah.
La Shoah, bien sûr. Alors justement, dans la Shoah, on sait bien que, évidemment, l'élimination du peuple juif dans cette période est liée essentiellement au peuple, enfin aux chrétiens. Je veux dire que c'est pas du tout, l'islam n'a rien à voir dans cette extermination.
L'islam n'a aucun rapport avec l'antisémitisme. L'antisémitisme est vraiment une... L'antisémitisme peut être considéré comme, à mon sens, hein, c'est pour ça que je parle d'ailleurs de judéno-diomie, parce que le terme judéno-diomie, alors juden veut dire juif et odium en latin veut dire détestation.
C'était pour éviter. Mais l'antisémitisme, c'est ça aussi.
Oui, c'était pour judéno-diomie est un terme intemporel. C'est une détestation du juif qui s'adapte au fur du temps, au gré de l'histoire, au gré des circonstances. Alors au Moyen Âge en Occident, c'est l'antijudaïsme chrétien ou catholique, on aura un anti-judaïsme protestant virulent.
Les protestants aussi plus tard, oui.
Et puis, au fur et à mesure que la société en Occident se sécularise, devient laïque et s'éloigne de plus en plus de Dieu, jusqu'à prendre congé de Dieu à l'époque moderne, là, les préjugés restent, mais se déchristianisent et deviennent, pour ainsi dire, athées, matérialistes, eugénistes, c'est l'antisémitisme, où le juif n'est pas détesté au nom d'une religion, mais au nom de sa race. Et là, c'est terrible, parce qu'on va aller vers des dérives exterminatrices, mais ceci n'existe
pas. Que va être la Shoah?
La Shoah, bien évidemment. Mais cela n'existe pas et n'a pas d'équivalent dans le monde musulman et dans l'histoire islamique, parce que l'antisémitisme n'existe pas en terre d'islam. Sur le plan théologique, il n'a strictement aucun sens. Et je le montre bien dans mon essai.
Dans votre livre, absolument. On va se retrouver dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Malik Bouzou, nous parlons de « Je vais dire à tout le monde que tu es juif », histoire comparée de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. Et dans cette dernière partie de notre rencontre, nous serons dans l'actualité, si je puis dire ainsi. On se retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Poursuivons notre rendez-vous ce dimanche matin au cours de ce Voix au chapitre. Je reçois Malik Bouzou et nous parlons de « Je vais dire à tout le monde que tu es juif », histoire comparée de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. C'est son tout dernier livre. Il vient de paraître aux éditions Jourdan. Si vous le voulez bien, Malik Bouzou, nous allons parler de l'actualité. L'actualité au sens islam de France, la communauté juive dans cette société française, la communauté musulmane, ce que nous traversons dans ce vivre ensemble ou ce vivre aussi avec quelquefois certaines violences, parce que c'est l'actualité qui le veut, l'actualité au Proche-Orient et l'actualité de ce qui se passe dans le conflit entre Israël et la Palestine, qui renvoie la société française, la communauté musulmane, la communauté juive, à s'interroger sur ce qui se passe là-bas et dire quelquefois qu'elle ne doit pas être exportée ici, alors qu'elle est aussi l'histoire de celles et ceux qui vivent ici, quelle que soit leur religion, l'une ou l'autre. Et il semble important d'avoir votre éclairage là-dessus, sur comment vit-on ce conflit qui, à mon sens, est un conflit de terre prise à un peuple. Ça s'appelle de la colonisation et non un conflit religieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais avoir votre éclairage sur le comment s'approprie-t-on à la fois individuellement et collectivement dans la religion, l'une ou l'autre, ce conflit au Proche-Orient que l'on voit aujourd'hui, mais aussi dans le quotidien d'être musulman en France et d'être juif, et comment être ensemble.
Ben c'est Ce sont des questions fondamentales, complexes, qui nous interrogent tous, en effet. Alors, juste un point sur le fait de ne pas importer le conflit. Je vois difficilement comment, à l'heure de la globalisation, et dans le cadre d'un contexte éminemment politique, avec effectivement une dimension coloniale qu'on ne peut pas nier, c'est une réalité, il y a une occupation de terres. Ariel Sharon le reconnaissait, homme de droite connu, et qu'il avait ouvertement dit, nous occupons des millions de personnes, nous occupons leurs terres, et il a reconnu que c'était problématique. Donc il y a une réalité, et ne pas importer un conflit, tout dépend le sens. On voit bien des manifestations en faveur de l'Arménie, pourtant il y a des minorités turques en France, donc il faudrait se taire. C'est étrange. Alors, bien évidemment, il faut éviter toute forme d'outrance et d'incitation à la haine. Ceci n'est pas acceptable. Mais dire la réalité d'un conflit israélo-palestinien qui est éminemment colonial, parce qu'il y a une occupation, et c'est pas moi qui le dis, c'est la charte de l'ONU qui dit le droit, et ce droit est bafoué aujourd'hui par le gouvernement israélien, et ce depuis de nombreuses années. Les Palestiniens vivent sous occupation, et il est là le drame. Ça ne veut pas dire par ailleurs qu'il n'y a pas eu, et je le dis dans mon livre, un antisémitisme.
On va parler de l'antisémitisme aussi hors ce conflit, mais je voulais terminer sur le...
Oui, ce n'est pas en taisant, en occultant une réalité palestinienne très importante pour les Français musulmans, parce que la Palestine, il faut quand même pas l'oublier, c'est un des lieux saints de l'islam, notamment Jérusalem. C'est aussi une histoire coloniale, et donc ça vient réveiller en résonance l'histoire coloniale des populations issues d'Afrique du Nord ici. Donc on peut pas occulter un réel. Le mieux, c'est de s'asseoir et de s'allier autour de valeurs universelles, de justice. Car il ne peut y avoir de paix sans justice. Or, aujourd'hui, le conflit est éminemment marqué par des injustices massives. L'occupation, est un fléau. Je n'aurai de cesse de le dire. Et parallèlement, je n'aurai de cesse de dénoncer tous ceux qui instrumentalisent la cause palestinienne comme déversoir à leur haine antisémite. C'est inacceptable. Le conflit, il est politique. Et il n'y a pas de solution militaire à ce conflit. Les autorités israéliennes aujourd'hui ont bombardé Gaza, mais ça va recommencer demain et après-demain, etc. Le maire de Tel Aviv, dont j'ai oublié le nom malheureusement, l'avait dit il y a 3-4 ans suite à une attaque d'un Palestinien fonçant sur des Israéliens et tuant ou blessant gravement des Israéliens. C'est dramatique. Mais lui, maire de Tel Aviv, explique que le drame, la cause de tout ça, c'est l'occupation. Cela doit cesser. Et donc, c'est un cri du cœur. Parce que la situation palestinienne est terrible. Et donc, aujourd'hui, être juif et musulman en France, c'est vrai que cette affaire-là, elle est compliquée. Parce que soit on n'en parle pas, c'est l'évitement, l'occultation, et donc c'est le déni de la réalité. Soit on en parle avec outrance, et là c'est les incitations à la haine, et c'est mauvais, et c'est générer du ressentiment, de la colère, et c'est très mauvais. Non, il faut en parler avec paix, avec intelligence, et puis essayer de comprendre pourquoi il y a du ressentiment. Il y a une politique israélienne qui est condamnable et qui doit être condamnée.
Elle n'est pas acceptable. Et quand elle est dénoncée auprès de d'amis juifs ou de gens de culture juive de notre entourage, on est montré comme des antisémites, comme vous voyez ce que je veux dire. C'est difficile de parler de dénoncer ce qui se passe dans les territoires à des personnes de la communauté juive parce qu'ils se sentent eux aussi attachés à attaqués parce que on dénonce ce que fait Israël.
Oui, mais alors justement, enfin dans mon livre, toute la troisième partie est dédiée à cet anti-judaïsme d'essence islamique et cet antisémitisme qui s'est déployé dans tout l'Orient arabe en particulier au gré des guerres israélo-arabes, et c'est absolument dramatique, c'est un effondrement intellectuel et c'est absolument dommageable. Mais il est vrai que c'est un conflit qui est complexe. Parce qu'il est, et je le dis dans mon livre, c'est le choc de deux blessures.
Bien sûr.
Alors, pour les Juifs, Israël, il faut se mettre dans la... Et c'est ce que je dis, j'essaye d'être un maximum en empathie dans mon livre. J'ai étudié, j'ai passé 3 ans à étudier les persécutions des Juifs. On n'en ressort pas indemne. Les Juifs ont été persécutés d'une façon mais absolument terrifiante, comme on ne l'imagine pas. En Occident, les pogroms, c'était atroce et abominable. Donc, l'idée sioniste, l'idée de créer un
état-refuge,
elle est humainement, comment dirais-je, évidente. Lorsqu'on est juif en Europe, il faut se mettre à la place de ces populations juives européennes hors Shoah. Imaginons en plus avec la Shoah. Donc, c'est une question de survie, c'est une question de vie ou de mort pour eux, la création d'un État dans lequel on peut enfin se réfugier. Je me rappelle des mots, alors je crois que c'était Begin qui a dit « Never, never again », plus jamais ça.
Plus jamais ça.
Plus jamais on nous exterminera. C'est terrible comme mot. Et puis, de l'autre côté, vous avez un autre choc, qui est le choc de la dépossession et du déclin. Le monde arabe, depuis la fin des Abbassides, les Ottomans arrivent, pour faire simple, les Turcs, les Abbassides sont, Bagdad est rayé de la carte par l'invasion mongole, les Abbassides s'effondrent, les Arabes quittent l'histoire, et puis, petit à petit, ils deviennent les sujets de l'Empire ottoman. Mais au XIXe siècle, il y a le nationalisme arabe qui renaît, qui réapparaît, et qui va venir confronter le nationalisme juif. Et donc, c'est le choc de deux blessures. Un désir de... Le fait de perdre la Palestine, dans l'imaginaire arabe, c'est une terrible blessure. Mmh. C'est pas négligeable. Et je pense que peut-être des juifs ne le comprennent pas. Des citoyens juifs ne comprennent pas cette douleur.
C'est pour ça qu'il y a une unité, vous pensez, dans le monde arabe, le monde musulman, pour être aux côtés du peuple palestinien, parce qu'il a perdu sa terre?
Oui, tout à fait. Parce que la perte de la Palestine, et je le dis tout le long.
Bien sûr, oui, c'est en, repensant à cette lecture, justement, que j'ai fait précisément de votre livre.
C'est une blessure profonde. Et d'ailleurs, les premiers nationalistes arabes seront chrétiens. Les musulmans suivront après, mais les fers de lance du nationalisme et du renouveau arabe au XIXe siècle sont essentiellement des penseurs arabes chrétiens. Et ils le disent, la perte de la Palestine est terrible pour le monde arabe. Et puis derrière, vous avez le nationalisme juif, je mets des guillemets, sous-tendu par l'idée sioniste, qui est honorable, qui est humaine fondamentalement. Au fond, mon livre...
Pardonnez-moi, mais si je puis me permettre, sans provocation aucune, sauf que dans le sionisme, on peut aussi entendre une notion de ne pas reconnaître le peuple palestinien, par exemple.
C'est un sionisme qu'il faut condamner. Le sionisme a des fins colonialistes, ethnicistes, suprématistes. Il existe le mouvement du rabbin Kahn,
une
espèce d'exalté prenant le fait de chasser tous les Arabes, appelant aux meurtres des Arabes. D'ailleurs, certains vont malheureusement aller jusqu'au bout de ce délire-là, mais il y a le sionisme originel qui est né de cette blessure infinie qui est l'extermination non-stop, les pogroms et la Shoah. Ça, on peut le comprendre, mais le sionisme tel qu'il est appliqué aujourd'hui, qui consiste à occuper, à coloniser, à expulser des Palestiniens de leur propre
terre, de leur propre maison.
Un historien israélien fort célèbre, dont j'ai oublié le nom, parle de d'épuration ethnique, qui ne dit pas son nom. C'est absolument inacceptable. Humainement, au nom de la justice universelle, on ne peut pas accepter ça. Il y a une solution. C'est de s'asseoir autour d'une table, d'en finir avec ce gouvernement israélien extrémiste qui prône l'occupation non-stop, qui est une fuite en avant. Parce que il n'y a pas de solution au conflit israélo-palestinien, sauf une paix basée sur la justice. Cela doit passer par la création d'un État palestinien. Tout le reste n'est que vaine illusion et discours, pour combler. Mais si on veut régler le problème fondamental, c'est la création d'un État palestinien viable.
Et sur ce rapport entre les Juifs et les musulmans, tout court, dans le quotidien, dans notre société française, puisque vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de l'islam de France, vous avez dû entendre ici ou là des propos qui étaient méprisants pour la communauté juive, de par la communauté musulmane. Et inversement, quand vous avez travaillé, vous avez
tout à fait, j'ai entendu.
Et comment faire reculer cette pensée justement négative pour aller vers on n'a pas beaucoup de temps, mais rapidement si vous le voulez bien, pour aller vers quelque chose de constructif et de paix surtout ici en France.
Vous savez, j'ai dédié ce livre à une certaine Élodie B, elle se reconnaîtra, une jeune étudiante juive qui m'a raconté son histoire et comment elle est née parce que sa grand-mère a pu se cacher dans une espèce de baril lors des rafles. Et si elle avait été raflée, elle ne serait pas là. Donc son histoire a bouleversé. Et donc je dis que cette Élodie, donc juive séfarade et askénaze française, je l'appelle mon inspiration juive. C'est par l'échange, l'écoute mutuelle. C'est pas par les invectives, les outrances, la radicalité, le déni de la souffrance du peuple palestinien qu'on va s'en sortir. Non, c'est s'asseoir autour d'une table et comme une thérapie. On a besoin de thérapie. Parce que nous sommes tous frères et nous sommes tous des enfants d'Abraham.
Merci infiniment sur ces mots de la fin, Malik Bouzou. Je rappelle le titre de votre livre, Je vais dire à tout le monde que tu es juif. Histoire comparée de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme en Orient et en Occident. Votre livre vient de paraître aux éditions Jourdan et il est à mettre entre toutes les mains, quelle qu'elle soit. Merci à vous.
Merci à vous.
Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien.
Voix au chapitre sur Beurre FM.